la première.
Oui.
Oui, oui.
22h, 23h. Par oui dire.
Pascal Tison.
Dis-moi. Par oui dire.
Par oui dire.
Mélanie Maquinet. Le projet ici du Festival des 5 saisons a démarré en 2010. Chaque année, le but est d'augmenter la présence d'œuvres d'art contemporain sur le territoire du parc. C'est mené par la commune de Chaudfontaine et par l'ASBL Lieux communs, la direction artistique.
Tout est paysage à Chaudfontaine et à Enghien. À Chaudfontaine, Festival des 5 saisons.
Pour l'instant, je dirais une vingtaine d'œuvres, mais certaines sont pérennes et d'autres ne le sont pas, ou elles vont se détériorer au fur et à mesure avec les intempéries. Certaines vont s'intégrer naturellement au paysage en vieillissant avec le parc, et d'autres vont rester debout presque intactes. Et donc le but est d'arriver à avoir comme ça un ensemble cohérent.
Tout est paysage à Chaudfontaine et à Enghien. À Chaudfontaine, Festival des 5 saisons. Au parc de Auster et au pavillon Fourmarié. Avec Mélanie Maquinet, Guy Malvé, Diane Benoît Duret, Gaël Dornier, Benjamin Testa et Charlotte Burtin.
Avez-vous des souvenirs de l'Expo 58?
Absolument.
Cette place de Belgique.
Les Kaliski.
Mon œuvre.
Allez voir ce qui est.
Une garden party très contemporaine.
Merci d'être là.
Aschenbach, Lino Polegato.
Dans mon histoire de ma peinture.
Alechinski.
Authentique, me tento, tentententon, stélé.
Le Monde Invisible.
Le Monde Invisible est une émission de Thierry Genico. Le Monde Invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Secteur des arts plastiques.
Effectivement, c'est vrai que le point de départ était de présenter l'art dans le quotidien et en contact direct avec les publics. Et donc c'est vrai que après différentes initiatives de ce type-là, aussi on a commencé à monter des projets dans des parcs, d'abord à Bruxelles et puis ici à Chaudfontaine. Chaudfontaine, c'était un projet là, qui existait déjà précédemment, qui avait été mené à l'initiative de la commune de Chaudfontaine à partir de 2010. Et donc là, nous avons repris en 2017 la direction artistique. Et donc c'est vrai que c'est devenu quelque chose de très important dans nos activités, parce que je crois que effectivement aussi cette relation entre les réflexions des artistes sur toutes les problématiques environnementales deviennent très importantes dans le champ de la création. Et je crois que voilà, lorsqu'il y a des parcs assez intéressants et très beaux, comme celui de Auster ou juste à côté ici à Chaudfontaine, celui des Sources, c'est un endroit magnifique, je pense, pour concevoir des œuvres et les présenter au public.
Et voilà, je suis partie finalement de cette structure octogonale comme ça, qui invite une circularité, un mouvement. Et je me suis dit, autant que la peinture agisse aussi dans cette idée de mouvement et de venir découvrir la fresque dans une circulation avec du coup des perceptions à chaque fois différentes au fur et à mesure de la circulation. Et du coup, j'ai essayé de travailler... Quelquefois, on dialogue avec ce qui se passe autour. Donc, par exemple, là, avec la rambarde et que la peinture agisse comme une continuité de la réalité, avec des effets d'illusion, mais aussi avec un travail sur la perspective qui peut annuler de temps en temps cette forme, justement, qui vient jouer avec.
Guy Malvé. Donc, nous allons à la rencontre de Diane Benoît Duré, qui est une artiste peintre qui vit à Paris et qui, ici, au parc, est intervenue sur un élément qui auparavant est un élément assez incongru, pour ne pas dire disgracieux, c'est-à-dire c'est une cabine technique de la société Wallonne des Eaux. Elle a non seulement peint sur cette cabine technique qui avait une forme assez intéressante, octogonale, donc qui pouvait même en fait évoquer finalement comme certaines fabriques que l'on retrouve dans des jardins du XVIIIe siècle. Son œuvre, en fait, c'est vraiment de transformer cette cabine technique en une œuvre totale. Je trouve qu'elle n'a pas seulement peint sur elle, mais qu'elle a transformé le tout en une œuvre globale et totale. Quoi, avec vraiment, les éléments d'architecture sont très présents dans ce qu'elle a peint et aussi le contexte environnant du parc et de la Vézère.
Ça peut être aussi avec juste des éléments végétaux qui sont repris dans la fresque, ou alors cette rambarde aussi qui est finalement devenue le lion de tous les panneaux peints.
Il s'appelle Guy Malevé de l'ASBL Lieu Commun.
Diane Benoît Duré.
Puis c'est vrai que ce parc est ouvert toute l'année, 365 jours par an.
C'est un endroit qui est intéressant au final. Je suis venue travailler 3 semaines ici, donc j'ai eu le temps de m'imprégner parce qu'il y a effectivement l'élément de l'eau, il y a les végétaux, il y a cette structure en béton, il y a des habitations autour. C'est un endroit de circulation parce que vraiment c'est au bord du chemin aussi. Je trouve que c'est intéressant parce que les gens s'arrêtent, du coup détournent leur chemin pour venir ici faire un tour et voir ce qui se passe un peu autour.
C'est une très belle commune et en fait elle est plus étendue qu'on ne le pense. Elle englobe Hambourg, Beaufailly, une partie de Trop, enfin, il y a quand même pas mal de verdure et ce coin, notamment ce parc, je trouve qu'il gagne vraiment à être connu. Et alors il relie les sources et Sourcerama, l'esplanade sur laquelle se trouve le casino, la gare et ici le château des Thermes. Donc si on traverse le parc, eh ben, on peut accéder aux différents points d'intérêt de la ville.
Et donc présenter son travail dans ce contexte-là nous a semblé très, très intéressant.
À Chauxfontaines, Festival des 5 saisons. Au parc de Auster et au pavillon Fourmarié.
Un autre lieu aussi, c'était le pavillon Fourmarié, qui est en fait un pavillon construit en 1962 avec une architecture vraiment reflet de l'époque, une architecture joyeuse, légère, reflet du courant moderniste, et qui abrite en fait dans son sous-sol une source d'eau chaude qui a été découverte par le professeur de géologie de l'Université de Liège, Paul Fourmarié. Et ce pavillon, finalement, était là, laissé un peu sans véritable fonction. Et il nous est apparu que c'était vraiment un endroit magnifique pour présenter des expositions, à la fois comme vitrine artistique. Donc les expositions seront visibles en permanence. Mais aussi, ce sera un point d'appui pour le festival. Et donc, ce sera un lieu aussi qui permettra de faire des animations, des rencontres avec des artistes. Donc il sera aussi ouvert et accessible à différents moments. Donc il aura à la fois la fonction de vitrine artistique, mais aussi de point d'accueil.
Je suis partie autour de l'idée du jardin. L'idée, c'était de faire en fait coexister différents univers et finalement que le jardin en fait rentre un peu en coalition avec, par exemple, l'univers du tuning.
Gaëlle Dornier.
C'est les voitures qui sont modifiées. Voilà, repeinte. Donc voilà, l'univers du tuning, le magasin de bricolage, l'archéologie par exemple. Il y a une pièce par exemple, c'est une brouette en fait, que j'ai modifiée et qui devient une sorte de bolide de course. Il y a aussi des outils de jardinage qui sont transformés en totem. Et alors en fait, chaque élément indépendamment est identifiable. Mais ce que je fais, c'est que je les assemble et je mélange le tout et ça fait un ensemble qui devient complètement farfelu, incohérent, où finalement tous les objets finissent par se dérégler, dérailler. Et alors en fait, mon intention, ce que j'ai envie de provoquer chez le spectateur, c'est impression de déjà-vu, puisque j'utilise des objets courants, en fait, que tout le monde connaît. Le rire. Alors qui peut être parfois un petit peu inquiétant, puisque oui, qui peut être, oui c'est ça, inquiétant, parce que finalement ces objets en fait échappent à la fonction habituelle et ils deviennent presque autonomes, ils ont finalement leur propre volonté. Et aussi un rire qui peut être un petit peu inquiétant, parce que quand on regarde mon travail, on peut voir des choses très colorées, un univers qui ça brille. Et en fait, en fin de compte, on pourrait se demander s'il n'y a pas une catastrophe sous-jacente.
Benjamin Testa. Je fais de la sculpture et puis plus généralement des installations. Et ce qui m'excite, c'est de faire des choses qui ne sont pas trop à ma mesure. donc à l'échelle un peu de l'architecture dans laquelle on est contenu, plus que de la sculpture un peu traditionnelle autour de laquelle on peut tourner.
Des escargots, mais la base elle est un peu nucléaire, donc elle est verte fluo. Le jardin zen va se transformer en litière pour chat. Les animaux vont fondre comme des sortes de flaques. Et donc voilà, l'idée c'est de provoquer une sorte de familière étrangeté en fait. Pour résumer, oui, ce serait ça.
Alors je suis itinérant parce que je vais de chantier en chantier et j'ai pas d'habitation. Je fais une bonne partie de mes œuvres en France et puis j'ai fait des pièces quand même pas mal à l'étranger, un petit peu aux Émirats Arabes Unis, en Afrique. Voilà. C'est aussi un bon moyen de voyager et de voir du pays.
Dornier, Gaël.
Et ici à Chauxfontaines.
Donc l'idée était assez simple, hein, vu que c'est dans un parc et que les gens viennent avant tout, je pense, pour se balader, puisque pour avoir une expo d'art contemporain, l'objectif c'est de faire des pièces dans ces cadres-là qui sont avec une certaine efficacité visuelle et qui ne demandent pas nécessairement tout un attirail de connaissances liées à l'histoire de l'art. Et là, l'objectif, c'était de simuler la chute d'une cabane d'un arbre, un peu à la façon dont on pourrait le faire dans une bulle de BD. Donc voilà, concrètement, ce qu'on voit, c'est de grands arcs qui viennent retracer, au nombre de 6, qui viennent retracer le mouvement de la cabane dans sa chute et ses rebonds. Voilà. Et puis, une petite cabane enlisée en bout de course. Donc évidemment, plus que la cabane, moi, mon intérêt, c'était cette question du mouvement. Et ce que j'aime assez, c'est qu'en architecture, on est confronté à l'orthogonalité. Donc il voit des angles droits, les volumes s'empiler, etc. Et c'est vrai que j'aime jouer avec ces grandes courbes-là, qui sont assez esthétiques, qui me plaisent assez à la manière un peu de ce qu'on peut voir sur les ponts ou dans ces ouvrages de génie civil. Quoi, voilà. On voit, si on analyse les différents arcs, que le premier, c'est vraiment un rebond qui est assez droit. Le mouvement de montée et de descente est quasiment symétrique. Et puis, petit à petit, la balle va de plus en plus loin. Et en fait, c'est calculé sur les rebonds d'une balle de tennis. Donc, j'ai pris des diagrammes qui ont été faits en laboratoire, etc. Donc, normalement, c'est assez fidèle à la réalité, bien que toute personne dotée d'un minimum de connaissances scientifiques, physiques, etc., dirait que ce qui définit le rebond, c'est aussi l'élasticité du matériau et tout. Et évidemment, la cabane de bois, dans un monde réel, si elle tombe, elle s'écrase, elle ne rebondit pas. Mais on est ici dans de l'imaginaire.
Alors, cette cabane est enfouie dans le sol, mais on peut rentrer en s'accroupissant.
On peut faire ce qu'on veut. Vous voulez qu'on essaye ? Après, l'idée aussi, c'est de, aussi bien que pour les arcs, que les enfants puissent jouer au foot, se pendre, etc., et que la cabane soit le lieu, ce qui est l'origine de la cabane, le lieu de folle rêverie, de bécotage, de voilà ce que les gens veulent bien y faire. Puis l'idée, c'était, donc là, les planches, on voit, c'est pas une belle cabane de jardin achetée au magasin de bricolage, c'est vraiment une cabane comme on construirait dans un arbre, avec des planches trouvées sciées, un peu toutes différentes les unes des autres. À l'intérieur, je me suis évertué à faire quelque chose qui soit avec des planches en travers un peu de partout, de sorte que ça conserve voilà, cet aspect de l'espace pour les rêveries enfantines. Quoi.
Ou bien de Notre-Dame-des-Landes.
Ah, alors ça, c'est un autre sujet, j'en ai bien parlé ce matin aussi avec une personne. C'est sûr que construire des habitats dans le cadre d'œuvres d'art aujourd'hui, ça renvoie tant sur la question des ZAD et autres lieux où se développent des initiatives différentes que sur la question de l'accueil des réfugiés voilà, dans les territoires européens. C'est pas le propos qui est contenu dans la pièce, mais c'est sûr qu'on peut y voir... On peut y voir des ramifications, et donc le propos qui a été évoqué ce matin, c'est quel intérêt à l'heure où des gens meurent en traversant la Méditerranée, on ne peut pas les accueillir, quel intérêt de construire des œuvres d'art qui coûtent des budgets qui pourraient être attribués à autre chose. Bon, j'avoue que moi j'ai des positions politiques, mais en tant qu'artiste, c'est évidemment des choses qui me dépassent un petit peu, quoi. Même si mon travail à l'origine est très largement lié au logement social, mais d'un point de vue architectural, quoi.
Benjamin Testa,
J'ai grandi dans ces architectures fonctionnelles où les mêmes appartements sont démultipliés à la verticale, qui accueillent des populations qui sont plutôt défavorisées. Et donc moi, ce qui m'a toujours fasciné, un peu à la manière d'un Pérec dans la vie mode d'emploi, c'était de savoir qu'on occupait tous un même logement standardisé, mais qu'on avait des modes de vie complètement différents. Donc en bas de chez moi, j'avais une famille de Comoriens à géométrie variable. Au-dessus, une dame qui était veuve, qui n'avait plus d'enfants et qui finalement était seule dans ce grand appartement. Nous, on était 5. Et donc je trouvais ça assez étrange, en fait, qu'on ait tous un même logement avec la même baignoire, le même évier, lavabo, etc., et qu'on en fasse tous quelque chose de complètement différent. Et puis, bien souvent aussi, c'est pas les populations les plus aisées, donc c'est pas là qu'on aménage le plus, qu'on refait les sols, qu'on refait... Donc voilà, c'est ultra standardisé. Et donc, ce que j'ai fait un petit peu au début, je continue à faire, l'idée, c'est de reprendre des données qui sont liées à l'acte d'habiter, donc le temps passé dans les pièces, les trajectoires dans les espaces, etc. Et à partir de ça, d'établir des protocoles et de reconstruire l'habitation, mais en tenant compte de ces données-là. Donc l'exemple le plus simple, c'est plus on passe de temps dans une pièce, plus elle grandit ou plus elle diminue. Et donc après, je reconstruis ces appartements à l'échelle 1 qui intègre ces variations. Et donc pour un même appart standardisé, on va avoir à la fin 12 formes différentes qui correspondent à chaque fois. Bah, s'il y a quelqu'un qui a fait d'une chambre un cagibi parce qu'il n'y a plus, les enfants sont partis, et bah, le cagibi c'est tout petit. Puis à l'inverse, s'il y a énormément de gens, bah, toutes les pièces vont grossir, etc.
Elle n'a pas de porte, hein? Votre cabane.
Elle n'a pas de porte, non. Non, bah...
Mais c'est le ciel, la porte, non? Est-ce qu'elle est penchée vers le ciel?
Non, l'idée, c'était quand même qu'il y ait... Puis c'est une très grande porte. Là, on est bien loin des standards. On doit être à 1 mètre de largeur pour l'entrée. Non, l'idée, c'est qu'on puisse circuler facilement. Voilà, que ça... Benjamin Testa.
Alors, je me nomme Charlotte Burtin, une artiste française, originaire de la Bretagne, originaire d'une petite île qui s'appelle l'île de Watt, où la nature, elle est encore restée sauvage. Et donc, c'est un des lieux quand même qui accepte une nature qui est intense, violente et qui n'a pas été encore transformée par l'homme. Donc, il n'y a pas de voiture, c'est le calme. Et cette île a énormément influencé mon travail, parce que forcément, comme je suis originaire, il y a quelque chose vraiment d'intrinsèque.
Alors un autre élément, c'est encore la maison Sauveur, qui est en fait une maison classée du XVIIe siècle et qui est vraiment une des toutes belles bâtisses de la région, qui se trouve au Parc des Sources.
Pour Chaudfontaine, là j'ai voulu créer en fait une pièce qui parle de nous, d'où en fait le titre. Et ce sont en fait des sculptures que j'ai voulu mettre de manière un peu éparpillée, mais pas trop non plus, un peu espacée, qui joue avec différentes manières de les percevoir. C'est-à-dire que de très loin, on a l'impression de ne pas trop savoir ce que c'est, on a l'impression de voir des formes très longilignes, assez abstraites. Et plus on s'approche, bah, plus on découvre finalement que ce sont des silhouettes humaines, plus ou moins humaines. Et encore, si on s'en rapproche, eh bien, on peut regarder dans la peinture notre reflet.
Et donc, nous avons aussi trouvé que c'était intéressant de relier cet élément bien connu des... habitants de Chaudfontaine au festival, en y plaçant aux abords en fait une sculpture, un ensemble de sculptures de l'artiste Charlotte Burtin.
Voilà, on voit notre reflet, on voit les alentours. Et en fait, ces différentes manières de percevoir l'œuvre, c'est un peu le regard que j'ai sur notre manière de traverser la vie en fait. C'est-à-dire qu'on a tendance à, dans notre vie à avoir des objectifs et finalement d'oublier ce qui se passe au moment présent. À des moments après, on a tendance à s'arrêter, à discuter avec les gens et donc à avoir un rapport humain. Et à un moment donné aussi, on a des tendances à par moment méditer, à s'arrêter parce qu'on est trop dans justement la vitesse de la vie et on a besoin par moment de se ressourcer. Et là, il y a quelque chose d'assez existentialiste qui arrive. Finalement, c'est de se considérer vraiment comme humain et faisant partie finalement de la nature ou venant de la nature. Donc voilà, en fait, cette œuvre symbolise un peu cet état d'esprit, mais aussi je laisse un peu en suspens aussi l'imaginaire qu'il y a tout autour, parce que pour moi, une œuvre, bien sûr, a une liberté subjective, et ça me permet aussi du coup d'échanger avec les spectateurs et de construire encore plus une histoire autour de chaque œuvre.
Chaudfontaine, Festival des Cinq Saisons.
Mais je suis souvent en voyage parce que j'aime beaucoup découvrir la France. Il y a tellement de régions qui sont très différentes, très variées, avec des forces différentes, des énergies différentes, des météorologies différentes. Je me suis toujours dit que on n'est pas obligé d'aller très loin pour découvrir des choses qui sont vraiment étonnantes, quoi. Donc, je suis amenée souvent à faire beaucoup de marches, seule aussi, énormément, et à me perdre un peu, à être un peu en errance, pas une errance négative, mais une errance vraiment quelque chose où on se laisse finalement un peu vivre et on essaye de voir comment on se sent dans chaque espace et comment on rencontre les gens, comment on évolue aussi avec ces gens-là. Et, enfin, tout ça, ça m'intéresse finalement. Et je pense que d'ailleurs, l'œuvre d'art, généralement, c'est un peu un filtre qui agrippe tout ce qu'un artiste peut emmagasiner comme ça. Et la matière, en fait, c'est vraiment ce qui reste de l'expérience d'un artiste dans sa vie. Parce que pour moi, l'art, c'est pas quelque chose qui est juste à un instant donné. Un artiste fait de l'art tout au long de sa vie, même pendant son sommeil. C'est vraiment son expérience. Et c'est pour ça que c'est toujours un peu délicat aussi de parler d'une œuvre d'art, parce qu'il y a différentes manières d'en parler. Il y a la manière, par exemple, d'en parler à travers l'histoire de l'artiste ou à travers son engagement, même si ce n'est pas forcément un engagement politique, mais un engagement même philosophique, ou il y en a qui parlent de spiritualité aussi. Donc c'est pour ça que moi j'ai tendance à essayer de parler un peu de tout et d'essayer de monter au fur et à mesure verbalement mon travail à travers des limites orales sur des sujets divers.
Charlotte Burtin.
Souvent quand je regarde un artiste, je ne regarde pas que son travail. Il y a d'abord son travail bien sûr, il y a la facture de l'œuvre, qu'est-ce que ça m'évoque, qu'est-ce que ça dit. Et je vais toujours chercher à savoir aussi d'où cet artiste peut venir. Et qu'est-ce qui aurait pu l'influencer? Par quel voyage il est passé d'ailleurs? Voilà, on revient au voyage. Par quel voyage dans la vie, c'est-à-dire quelle rencontre qu'il a fait? Qu'est-ce qui l'a influencé? Et d'ailleurs, pour moi, une œuvre d'art, ce n'est pas. Ce n'est pas juste un objet. C'est quelque chose qui représente une époque, qui représente. Un état d'esprit qui s'arrête à un moment donné dans le temps, qui est mis en suspens comme ça. Vous voyez, quand on fait un tableau par exemple, on peint, puis l'activité nous amène à faire des choses par moments même très étranges qui nous échappent, puis à un moment on décide que le tableau il est achevé et ce livre a des questionnements aussi qui restent en suspens, et accrocher le tableau c'est justement mettre en suspens ces questionnements. Et mettre aussi ces questionnements vis-à-vis d'un temps, d'une époque, d'un environnement, d'une forme d'un état politique, d'un état émotionnel, enfin, plein de choses, quoi. C'est très, très divers.
Comment s'opèrent les choix des artistes ?
Pour cette édition-ci, je pense que les lieux ont vraiment été importants. Donc on a finalement, au départ... mais pas de manière non plus hyper restrictive, mais enfin envisager un certain nombre de lieux. Et ensuite, finalement, les choix des œuvres se sont opérés sur base de ces lieux. Et donc la volonté était finalement de remettre en valeur différents éléments patrimoniaux aussi. Il y a notamment ici dans le parc une ancienne glacière à glace naturelle qui était complètement envahie de végétation et dont l'accès aussi était... entravés par des grilles de chantier, et on trouvait que c'était intéressant de rendre visible cet endroit et d'y intégrer une œuvre d'art.
J'ai été énormément influencée par l'histoire de la peinture américaine, et que ce soit la première ou la seconde génération, notamment une artiste, une ou deux artistes féminines du coup, Agnès Martine, qui est une peintre. On ne sait pas trop si on a la place dans les expressionnistes abstraits ou le minimaliste, parce qu'elle a quelque chose de très particulier. Elle ne parle pas que de la facture de la toile, mais elle parle aussi de la vie de tous les jours.
De ce fait-là, c'est vrai que le choix, alors après, s'est fait sur l'artiste Florence Lenain, qui est là un travail de céramique, et qui évoque vraiment dans son travail les rochers, les éléments minéraux, l'érosion, le cycle des saisons, aussi le travail de la rouille.
Dans cette émission, je me rends à Chauxfontaine. Vous voyez où c'est ?
Chauxfontaine, oui. Là-bas, à la piscine, quand j'étais petite.
Cette expérience, ce petit moment présent intense, et de l'attraper comme ça pour l'écrire, ça, c'est quelque chose... c'est un long travail. Et c'est très... ça va tellement vite que, par moment, j'ai l'impression de décrire cette expérience et en fait je me rends compte qu'il y a un petit décalage entre ce que j'ai vécu et ce que j'ai écrit. Donc oui, il m'arrive énormément d'écrire, de relire ce que j'ai écrit et par moments même d'écrire du coup des choses qui n'ont pas forcément de sens mais qui, quand on se laisse aller ou relire, eh bien amènent autre chose, une autre forme, on pourrait dire peut-être odeur ou une autre... Enfin, je parle beaucoup aussi en forme de synesthésie, c'est-à-dire la correspondance des sens. C'est-à-dire que pour moi, tout se corrèle. Un son peut se corréler à une matière, peut se corréler à un goût, peut se corréler à un mouvement, une vitesse. Et dans l'écriture, en fait, peut faire acte. On peut vraiment essayer de cerner ces formes de synesthésie. Ou les dire, en tout cas, les évoquer.
Et vous êtes allée au parc de Chauxfontaine, où il y a des installations.
Oui, c'est ça. Je me souviens qu'il y a une grosse pince à linge aussi. Des arbres morts, mais qui ont été retravaillés par des artistes plasticiens. Mais la pince à linge est celle qui m'a le plus interpellée. Quand on est petit, on est souvent porté là-dessus.
Faisons-nous dans cette vie, même si on n'a jamais de réponse, c'est quelque chose qui revient sans cesse, hein, comme une sorte d'éternel retour. Et beaucoup d'artistes aussi ont cette problématique, qui font aussi avancer leurs œuvres et nous fait avancer aussi dans l'étrangeté, dans une zone un peu inconnue, presque limite sacrée, sans parler de religion, mais sacré vraiment, quelque chose qui dépasse notre entendement et qui justement amène la créativité en exergue, en fait, tout simplement.
Tout est paysage. À Chauxfontaine et à Enghien. À Chauxfontaine, Festival des Cinq Saisons. Au parc austère et au pavillon Fourmarié. Avec Mélanie Maquinet, Guy Malveux, Diane Benoît-Duret, Gaëlle Dormier, Benjamin Testa et Charlotte Burtin. Tout est paysage. Miroir 2, Biennale d'art contemporain d'Enghien, jusqu'au 23 septembre. Avec Ornella Lavacara, Arnaud Ecote et Christophe Pérez.
Particularité, c'est un parc qui comporte un certain nombre d'édifices. Donc on n'investit pas le château en tant que tel, qui est une reconstruction en fait, mais les écuries du château, une chapelle castrale, un tunnel par exemple, sont utilisés par les différents artistes qui ont eu la possibilité de choisir d'être soit dans un espace fermé ou dans la nature.
Vous me semblez enthousiaste, Ornella Lavacara, de cette visite à Enghien dans le parc.
Oui, tout à fait. C'est une très agréable découverte.
Tout est paysage.
C'est une citation de Jean Dubuffet et c'était au sein de l'équipe de la biennale. C'était une phrase qui restait comme ça en suspens et les organisatrices n'osaient éventuellement pas la revendiquer. Et je trouvais qu'effectivement, elle était porteuse de sens, elle avait une délicatesse. Et dans les noms qui faisaient partie des artistes éventuellement contactables, elle pouvait venir en résonance.
Et tous tes paysages, ça veut dire que nous sommes dans la nature ?
Alors, nous sommes à la fois dans la nature, puisque ce parc d'Anguien est un espace naturel assez incroyable, où l'espace est à la fois domestiqué par des jardins, mais aussi laissé à la forêt. C'est une balade assez incroyable. Personnellement, je n'avais jamais été là avant de rencontrer les organisatrices de l'événement, et j'ai été séduit par le lieu, aussi par l'énergie que ces bénévoles pouvaient mettre dans un tel projet.
J'ai découvert un tas de choses. Tout d'abord, le parc en lui-même.
Christophe Vess, quelle a été votre mission ?
Alors, ma mission était d'accompagner ce projet, de rentrer dans cette équipe pour faire des propositions, éventuellement valider certaines hésitations ou en écarter. Ça s'est fait dans une sorte de bonne entente assez joviale. C'était très agréable de travailler de la sorte. Et j'insiste sur le caractère de bénévolat de cette entreprise qui est assez remarquable pour avoir une brochette d'artistes d'envergure internationale qui acceptent de rentrer dans un projet qui n'en est qu'à sa seconde édition. C'est vraiment une belle entreprise.
Le parc en lui-même est un bijou à explorer.
Tout est paysage.
Je suis là comme une sorte de membre du comité artistique, en fait.
Miroir 2. Biennale d'art contemporain d'Anguien, jusqu'au 23 septembre.
J'ai découvert aussi, évidemment, et non sans surprise, l'intégration des pièces dans ce parc, que ce soit dans le parc ou dans les bâtiments qui font partie du parc, évidemment.
Quand vous dites brochette d'artistes, brochette, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui les unit.
Le talent, d'abord, le talent, l'envie de les montrer, et aussi cette réflexion autour soit d'un paysage qui est un paysage d'un objet que l'on peut contempler, que l'on peut vivre, que l'on peut arpenter, ou bien un paysage qui est plus de l'ordre intérieur, d'ordre presque spirituel. Donc en effet, c'est une des choses qui les rassemble. Ce qui nous semblait aussi intéressant, c'était que comme c'est un espace qui se visite gratuitement, et que peut-être une des premières fois que certaines personnes vont rencontrer de l'art contemporain, c'est d'une certaine façon le fait de pouvoir découvrir des œuvres qui ont une strate de profondeur assez grande, mais dont l'abord premier peut être aussi tendre. Ce ne sont pas des choses qui vont être révoltantes au premier abord, qui vont séduire aussi. C'était important d'avoir des images qui étaient très fortes, des gestes qui peuvent capter immédiatement l'attention et qui, au moment où le spectateur va réfléchir à ce qu'il a vécu comme expérience, peuvent être vraiment très riches de sens. Voilà, ça c'est aussi un autre fil conducteur. Et pour ce faire, chaque visiteur reçoit un petit catalogue où chaque artiste explique sa démarche aussi.
Le premier bâtiment qui a retenu mon attention est celui des écuries, en fait, ou de l'étable. Je ne sais pas trop ce que c'était exactement, mais en tout cas, les bêtes y mangeaient et s'y reposaient. Déjà, le bâtiment en lui-même évoque cette idée de repos, cette idée de réconfort des bêtes que j'apprécie particulièrement.
Alors, il y a un grand travail qui est fait sur la lumière, notamment parce que le jour du vernissage, les heures faisaient passer du jour vers la nuit les pièces. Donc là, il y a vraiment au sein de l'équipe quelqu'un qui s'est occupé absolument de cette question. Et puis, la question de la lumière, elle apparaît dans de très nombreuses œuvres, en effet, qui coordonne une sorte de rythmique de la déambulation dans ces espaces, puisqu'ils sont vraiment de nature très très différente.
À vous écouter, on a l'impression d'avoir affaire à un voyage onirique aussi.
Quand vous êtes dans un espace aussi magique que celui du parc d'Anguien, on est dans une sorte de rêverie. Plusieurs artistes se sont accaparés d'une certaine manière cette dimension onirique, qu'il s'agisse de Sophie Wetnall qui partage les eaux, de l'étang du miroir, de Maxence Mathieu qui renvoie vers une sorte de conte de fées enfantin dans un travail autour du dessin d'enfant qui est caché dans une sorte de clairière.
un petit catalogue verbal, à défaut d'être visuel et incitatif à aller découvrir cette exposition qui se tient encore quelques jours jusqu'au 23 septembre.
Exactement, jusqu'au 23 septembre, toutes les après-midi, gratuitement, dans le parc d'Enghien. Vous pouvez donc découvrir les œuvres, je vais les prendre par ordre alphabétique, ce sera bien plus simple, de Loretta Truxtallo, qui a décidé de s'implanter dans une chapelle. C'est une chapelle qui est dans un état de conservation un peu précaire, comme ça, et elle a décidé de reconstituer un trésor à l'intérieur de cette chapelle. Et aussi, elle a profité d'une ouverture architecturale pour la remplir de bûches qu'elle dore, qui donnent la sensation d'une sorte de tableau abstrait. Jean-Marie Beiteberg est un artiste peintre qui va travailler sur la perception du paysage et notamment un double paysage avec deux formats de peinture, donc vivre l'expérience corporelle de la peinture.
Et j'ai découvert une très grande peinture sur toile, peinture à l'huile, je pense, un peu type impressionniste comme ça, qui évoquait en fait... Sans que je l'ai encore vraiment découvert, ce parc, elle évoquait vraiment une sorte de moment donné, à la manière des impressionnistes, une très belle sensation.
Grete Dobbels est une artiste néerlandophone, elle aussi. C'est intéressant de constater que c'est une ville qui est sur la frontière linguistique et dès lors, ça nous semblait important d'avoir aussi des artistes néerlandophones, ils sont deux. Grete a proposé une performance lors du vernissage qui consistait à relier deux points du parc grâce aux visiteurs de l'exposition, mais aussi elle intervient dans un petit pavillon chinois et dans un autre pavillon adjacent avec la reconstitution d'un paysage à l'aide de tranches de papier, simplement. Lionel Estève avec une toute petite intégration à l'entrée de la chapelle, dans une tour en fait, sur le perron de cette tour, et vous devez lever les yeux au ciel, une petite plume va vous embarquer dans son chemin poétique. Frédéric Fourdinier, quant à lui, a utilisé l'un des éléments constitutifs et les plus forts de ce parc, qui est le pavillon des 7 étoiles, si mes souvenirs sont bons, il s'appelle comme ça, qui est un pavillon qui réfléchit à la constitution astrale, et il va tirer dans un sous-sol des lignes qui réfléchissent à cette mécanique astrale.
Et si je vous dis, Ornella Lavaccara, tout est paysage, vous l'entendez comme une contemplation invitée ?
Oui, tout à fait. Une contemplation, un émerveillement. L'idée que la vie est belle, vraiment. L'envie de pleurer parfois, c'est très émouvant. Très émouvant de constater à quel point l'art et des simples petites choses, une personne, peuvent intégrer un paysage et le magnifier en fait par leur simple présence.
Pierre Gérard, qui lui est dans le pavillon en tant que tel, qui est un tout petit pavillon ravissant sur une étendue d'eau, sur les hauteurs de ce parc, et qui a réalisé pendant 3 jours sur place une énorme installation constituée de bois, une sorte d'échafaudage merveilleux, comme ça, ou comme une petite danseuse dans une boîte à musique. Une danseuse abstraite, bien entendu. Bernard Gigounon est présent à 2 endroits dans le parc, dans des espaces clos. Il y présente de la vidéo, des photographies, dont une magnifique photographie d'un arbre, un arbre dans la nuit, où il a conservé uniquement les étoiles qui sont à l'intérieur de l'arbre, l'arbre étant dénudé de ses feuilles, une photo presque magritienne. Pierre-Philippe Hoffmann, qui est un artiste belgo-suisse et qui a arpenté pendant des semaines et des semaines le paysage suisse, fait une sorte de compte-rendu textuel, photographique, notamment, de ses pérégrinations. Il avait déjà fait un énorme travail en parcourant toute la frontière linguistique belge. Et puisqu'il a cette double nationalité, il s'attaque à ce moment-là à la Suisse.
En Guyane, vous savez où c'est ?
C'est près de Bruxelles, je crois. Pas sûr. Je crois que c'est près de Bruxelles.
Maxence Mathieu est présent à 2 endroits, un petit espace dans une clairière où il présente notamment un dessin d'enfance posant la question de l'âge d'un artiste. Picasso a longtemps rêvé de retourner vers ses capacités artistiques enfantines. Un objet qui est assez incroyable dans son contexte, ce dessin perdu dans une clairière comme un enfant perdu, nombreux dans les contes, hein, le petit Poucet et autres.
Et puis, j'ai vu évidemment plein de choses qui m'ont intéressée. Les photos de Mazzoni, je pense, un certain Mazzoni, qui était en dessous, dans les sortes de... Je ne dirais pas catacombe de la chapelle, mais en dessous de la chapelle, vraiment dans une sorte de cave. Y étaient nichées les photos assez contemporaines, parfois même subversives, je dirais, de Mazzoni, qui sont vraiment très interpellantes par leur couleur, par leur forme et leur intégration dans les lieux.
La proposition de Michel Mazzoni, à nouveau dans un espace d'ordre souterrain où il utilise son vocabulaire de fragmentation d'images, superposition de ces images, un sens de la mise en scène très précis.
C'est même un coin trop beau. Quand on voit la richesse du parc aussi, on comprend.
Sur la frontière linguistique.
Sophie Whitnell, quant à elle, va faire un dessin dans l'eau de l'étang qui donne son nom à la biennale, donc l'étang du miroir, et elle pose des bambous sur cet étang, et à certains moments de la journée, on a véritablement la sensation que les eaux de cet étang sont doubles, qu'elles ont presque une matérialité différente, l'une par rapport à l'autre, d'un côté par rapport à l'autre. C'est un geste très très simple, mais qui est par instant, et vous parliez de la lumière tout à l'heure, peut totalement basculer.
À croire que ça fonctionne, les biennales.
Ça, ce sont donc l'ensemble des propositions résumées en quelques mots, mais ce qui domine, c'est essentiellement une sensation d'être bouleversé par ces intégrations artistiques qu'on a eu plaisir à solliciter auprès des artistes, puisque la plupart des œuvres sont des réalisations in situ qui ont été réalisées durant l'été.
À croire que ça fonctionne, les biennales. Chaque année, c'est trop. Il faut se rendre compte que ça prend énormément de temps, je crois, de mettre en place des événements pareils, pouvoir organiser, trouver une thématique qui soit propice au lieu, qui fasse honneur au lieu, de trouver des artistes aussi qui puissent rendre justice à tout ça, c'est pas évident, ça prend du temps, ça demande énormément d'efforts. Et au final, ça paye. Énormément.
L'un des deux membres du collectif Void,
donc à Enghien, on utilise de la mousse acoustique, donc de l'isolant sonore, pour réfléchir à la fois à une pièce qu'on met en place visuellement, qui représente le paysage en fait, d'orgue basaltique, qui est à la base du matériau de la mousse acoustique. Et donc la réflexion qu'on met en place, c'est vraiment une réflexion entre le son et la forme, qui traverse un peu toute notre pratique. C'est-à-dire on pose un objet visuel, mais qui vient interférer dans notre relation à l'espace aussi d'un point de vue sonore. Donc il essaye de questionner l'aspect relationnel qu'on peut avoir à un espace du point de vue du son.
Quant au Void, avec un travail in situ spectaculaire en termes de format, ils ont utilisé des systèmes de matériaux qui sont des matériaux qu'on utilise traditionnellement dans le monde du bâtiment, qui sont des mousses, et ces mousses renvoient à des orgues basaltiques. Ces mousses sont obtenues par fragments de basalte. Ils reconstituent ce paysage qui transforme la sonorité du lieu dans lequel le spectateur est amené à circuler.
C'est vraiment quelque chose qui traverse notre pratique avec cette idée de représentation liée au sonore, comment représenter le monde sur des bases sonores.
Loretta Truxtallo qui renvoie vers à la fois la dimension de trésor religieux, mais aussi de rêverie.
La fin de ma balade s'est terminée par une découverte, je pense que c'était vraiment la plus belle. Celle qui se faisait à l'entrée, c'est une installation que je n'avais pas vue en rentrant puisqu'il fallait s'immiscer dans un bâtiment tout à droite. Ça me semblait être une sorte de salle de cinéma. Et on y entendait le bruit des applaudissements des gens en regardant en même temps une vidéo de la pluie qui tombait. Alors évidemment, on fait le lien entre le bruit de la pluie qui tombe et des applaudissements. Il y a vraiment un lien qui est fait et qui est juste
magique, vraiment fabuleux.
On parlait de la lumière, mais il y a aussi un jeu, je pense, sur la question de la déambulation, puisqu'on est dans tous les paysages, et pour aborder le paysage, il faut se déplacer. Lorsqu'on se déplace dans l'œuvre des Voids, les sonorités sont modifiées par l'environnement. Je voyais les visiteurs, au moment du vernissage, jouer de la distance par rapport à la sculpture, pour la percevoir, pour circuler à l'intérieur de cette sculpture. C'est intéressant parce que la plupart des artistes qui travaillent dans cette biennale vont jouer sur la question de l'échelle. Par exemple, chez Lionel Estève, c'est une toute petite pièce, alors que chez les Voids, c'est l'une de leurs plus grandes réalisations. Ou bien chez d'autres, à nouveau, il y a une capacité à appréhender un espace qui est gigantesque.
On ne chercherait même pas de sens à ça, c'est simplement le lien qui est fait, le lien naturel, gratuit. C'est un cadeau gratuit en fait, c'était vraiment très très beau.
De ce que vous dites Arnaud et Côte, je pense à un artiste qui a déjà une longue pratique sur la question, Baudouin Sterling.
Oui tout à fait, c'est assez intéressant que vous me parliez de Baudouin Sterling parce que je me souviens, lorsque j'ai fait mes études au Carré des Arts, d'avoir assisté à une de ses conférences. Et je pourrais dire que quelque part, c'est un peu, je sens une certaine filiation par rapport à lui. J'ai été très marqué par sa recherche autour du silence et le périple qu'il explique. Il part dans les montagnes en été à une certaine période pour essayer de cueillir ce silence. Et
de le cartographier.
De le cartographier, tout à fait. Et là, je dois dire que c'est quelqu'un, par exemple, qui a ouvert beaucoup de portes. Et qui, dans la pratique, notamment de Void, et même dans la pratique antérieure, a placé le silence sur la carte du son, si je peux m'exprimer comme ça, et de se rendre compte que, oui, comment est-ce que le silence peut avoir une articulation, que ce soit en musique, que ce soit dans le langage, comment est-ce qu'il vient ponctuer le son et en faire quelque chose d'intelligible.
Et d'autre part, d'après ce que j'entends de vos explications quant à la pièce que vous présentez, il y a, comme chez Baudouin Sterling, Arnaud et Côte, la question de la performance de l'auditeur qui tantôt doit se coucher par terre pour écouter, tantôt doit marcher, tantôt doit tendre l'oreille, etc., par des instruments. C'est votre cas aussi ?
Je dirais d'une certaine façon, parce que la particularité des œuvres sonores, qui peut aussi, par exemple, être la particularité des œuvres de vidéo, ce sont des œuvres qui ont une temporalité. Donc dans laquelle il y a un déplacement, même en étant fixe finalement, le spectateur se déplace dans une narration. Et je pense que c'est assez connecté par rapport au médium sonore, qui est un médium qui voyage. Le son finalement c'est un mouvement qui emplit des espaces, qui a une durée, un début, une fin, un point d'orgue, un silence. Je pense que même en étant statique, le spectateur est inclus dans un mouvement. Et donc c'est vrai que par exemple dans la pièce ici à Enghien, il y a cette idée de déambulation. On tourne dans l'espace. On aurait pu imaginer que la pièce soit un grand monolithe composé au centre, mais on a préféré imaginer ça comme quelque chose. Lorsque l'on rentre dans l'espace, on ne peut pas voir l'entièreté tout de suite. Il faut se balader, arpenter les lieux. Ce qui, à mon avis, est assez connecté à l'idée de paysage.
Et d'expérience.
Et d'expérience, tout à fait.
Énormément. Je suis allée là-bas avec beaucoup de motivation, évidemment, comme pour chaque exposition, mais j'étais à milieu de penser ce qu'il pouvait y avoir là-bas. C'était vraiment, vraiment une très belle découverte.
Une découverte qui se tient, hélas, jusqu'au 23 septembre.
Oui, oui.
Paysages à Chauxfontaine et à Enghien. À Chauxfontaine, festival des cinq saisons, au parc de Austère et au pavillon Fourmarier, avec Mélanie Maquinet, Guy Malvé, Diane Benoît-Duret, Gaël Dornier, Benjamin Testa, et Charlotte Burton. Tout est paysage, miroir d'eux, Biennale d'art contemporain d'Anguien, jusqu'au 23 septembre. Avec Ornella Lavacara, Arnaud Ecote et Christophe Pleiss. Le Monde Invisible est une émission de Thierry Genicot. Le Monde Invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.